chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de VOA Afrique pour suivre votre émission quotidienne à votre avis. Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette discussion. Au moins 131 personnes ont péri dans le naufrage d'un ferry jeudi sur le lac Victoria. Deux jours plus tôt en RDC, au moins 27 personnes sont mortes dans le naufrage d'une péniche sur un affluent du fleuve Congo. Que pensez-vous de la fréquence des accidents de bateaux? Quelles sont les principales causes et comment y remédier? C'est la question qui vous a été posée sur le Facebook de VOA Afrique. Grand merci à vous tous qui avez répondu à ces questions, qui avez commenté ce sujet. Nous avons dans le studio avec nous Joël Zima,
ouais,
et Peggy Wabeno, qui sont journalistes à Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa. Un grand merci d'être avec nous, Joël et Peggy.
Bonjour Nathalie et bonjour à tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique Afrique.
Alors, environ 200 passagers se trouvaient à bord du MV Nyerere lorsqu'il a chaviré, selon des témoins, soit deux fois plus que sa capacité. Et à l'approche de l'île d'Oukara, des passagers se sont déplacés vers l'avant du navire, ce qui l'aurait déséquilibré et fait chavirer. Le ferry exploité par l'agence tanzanienne des services électriques et mécaniques transportait également des marchandises. Et aux dernières nouvelles, le président tanzanien John Magufuli a ordonné l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans la gestion du navire. Et il a dit que les arrestations avaient même déjà commencé. Il apparaît clairement que le ferry avait dépassé sa capacité, il a évoqué donc une négligence, et il a par ailleurs décrété un deuil national de 4 jours. Et on peut rappeler que quelques heures avant, le leader de l'opposition Freeman Bowie avait justement appelé à prendre des sanctions. Il avait dit: nous avons déjà eu plusieurs accidents meurtriers, non seulement sur le lac Victoria, mais aussi dans l'océan Indien, sans qu'un seul responsable rende des comptes. Donc il semble que cela pourrait changer, et on rappelle l'incident de la RDC où le naufrage d'une péniche surchargée donc avait tué 27 personnes sur un affluent du fleuve Congo dans le nord-ouest du pays. Le drame était intervenu à cause de l'effondrement du toit de cette baleinière encombrée de marchandises, et les secours aux dernières nouvelles tentaient toujours de retrouver d'autres corps encore sous les eaux. Il y a deux jours, c'est la rivière Mongala, à hauteur de Binga, en province de la Mongala. Donc tout ça pour dire que les naufrages meurtriers, notamment dans la région des Grands Lacs, mais pas que dans la région des Grands Lacs, sont souvent dus à des embarcations surchargées. La navigation se fait généralement avec des navires assez vétustes ou mal entretenus, et les autorités sont peu regardantes sur la sécurité. Je vais commencer à poser la question à Joël. Joël, justement, vous êtes en RDC, vous couvrez beaucoup ce genre d'événements. Est-ce que la couverture, parce que nous on fait une couverture très extérieure de tout cela, donc on en sait beaucoup moins que vous, est-ce que la couverture de ce genre d'incident se fait de manière investigative? Est-ce que vous allez vers donc tous ces acteurs, le gouvernement, les propriétaires, les exploitants des bateaux, et est-ce qu'à partir de là vous arrivez un petit peu à savoir le pourquoi du comment et ce qu'il en est?
Ben oui, et on va vers l'information, investigation, oui, parce que même si on n'est pas forcément sur place, mais on a des contacts sur place qui peuvent facilement décrire ce qui s'est réellement passé. Et dans la mesure du possible, on arrive à joindre aussi les autorités habilitées, bien sûr, à répondre aux vrais problèmes. Parce qu'il va falloir trouver des solutions durables. Les naufrages, on en compte, c'est vrai, mais le problème, lui, il demeure. Alors, il va falloir, parce que nous avons besoin de l'information, on va vers ceux qui vont nous apporter les solutions durables, parce que la population aussi a besoin d'avoir des réponses. Certes, elle utilise ce moyen de transport, mais les conséquences, peut-être, elle ignore ou elle les ignore. Mais le mieux, c'est que les responsables ou les autorités concernées puissent bien communiquer avec ceux qui les entourent. Et nous sommes là pour joindre ces personnes-là, forcer les portes pour chercher à avoir non seulement les raisons ou bien ce qui les causes de ce qui arrive, et aussi trouver des solutions durables.
Peggy, est-ce que vous avez connaissance de sanctions éventuellement qui auraient été prises ou pas en RDC par rapport à ce type d'accident?
Généralement, il n'y a pas de sanctions qui suivent après le naufrage, puisque La plupart des cas qui reviennent, ce sont les mêmes causes. Navigation nocturne, embarcation de fortune, surcharge, et les causes ne suivent pas. Souvent, les propriétaires des embarcations ne sont même pas aux arrêts, juste après l'incident, et prennent la fuite. On ne les retrouve pas et les victimes ne sont pas indemnisées et ça se passe comme ça et ça se termine comme ça.
On a des auditeurs en ligne. Avant de prendre Ben, je voudrais citer le commentaire de Ordi Okuo qui a écrit sur notre Facebook « Nos gouvernements ne prennent pas les mesures nécessaires pour éviter ces naufrages ». Il y a éventuellement le commentaire de Florentin aussi et qui est à Goma, il est en République démocratique du Congo et il présente ses condoléances, il dit « Mes condoléances à nos frères tanzaniens ». Merci beaucoup Florentin pour cette présentation de condoléances. On a donc Benoît en ligne. Benoît, bonsoir.
Bonsoir, Ville d'Afrique.
On vous écoute. Donc vous êtes à Kinshasa, hein?
Oui, nous sommes à Kinshasa, juste dans la capitale de la RDC.
Alors,
nous sommes vraiment inquiets, désolés. Nous sommes vraiment inquiets, désolés par rapport à la volonté, à la mauvaise volonté que notre gouvernement est en train de manifester envers la population que nous sommes. Si vous regardez bien, nous, celui-ci, il n'y a pas de contrôle technique. On n'arrive pas à faire de contrôle technique, soit sur les taxis qui sont en train de marcher sur mon tronçon, ou soit dans les navires. Il n'y a pas de contrôle technique. C'est-à-dire, si vous voulez avoir fait masse de documents, des vignettes sous contrôle technique, vous vous rendez soit à la mairie, soit à la SOMAS, et vous donnez de l'argent, on vous donne un document sans que ce soit contrôlé votre appareil navire. Alors, ça arrive à créer des cisanies partout à l'heure de ce. C'est pour ça que vous voyez à trop de naufrages et à des problèmes de surcharge et des accidents partout sur tout le territoire de la RDC. Et nous demandons à nos autorités, aux civils et militaires, de nous aider à comprendre réellement la souffrance que nous avons, avoir même la volonté, même si le continent est en train de partir mal, même si le continent est devenu vieil, mais nous devons quand même avoir la volonté d'aider la population. Même notre ministre des Transports a mis ses témoins, qui est la PCR et les polices de fluviales. Mais vous regarderez le taxi, Magicash chez nous qu'on appelle, c'est un petit taxi qui transporte 4 personnes. Mais chez nous, au Congo, ça transporte plus de 15 personnes, y compris la chaise là-dessus. Hein, quand il y a trop des accidents, ça dit que tout le monde qui arrive à mourir comme des termites dans un termitière. Et ça nous fait du mal, et ça déplore. C'est pour des raisons, nous, le membre de la lutte à l'Est africaine, nous sommes en train de pleurer nos frères qui viennent d'avoir nos frères. Plus de 200 personnes dans le lac Victor. Et récemment, vous avez écouté encore sur le fleuve Congo. Nous avons perdu plus de 25 personnes. Et pourquoi le ministre des Transports a quel travail? La SOMAS fait quel travail? Le gouvernement fait quel travail? Et c'est vraiment la loi que nous sommes en train de voir. Et
merci beaucoup.
Nous sommes en train de parler. Oui.
Un grand merci, oui. Un grand merci Benoît pour votre commentaire. Restez à l'écoute avec nous. Les contrôles techniques, en fait, on a beaucoup d'auditeurs effectivement qui nous ont parlé des contrôles techniques, la question des contrôles techniques. Et donc la plupart disent que non, il n'y a pas de contrôle technique en ce qui concerne tous ces moyens de transport et pas seulement les transports fluviaux. Donc à quoi pensez-vous que cela est dû? Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile d'aller contrôler tout le monde ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a tout simplement aucune politique qui a été mise en place pour effectuer effectivement des contrôles techniques en général?
Du tout. Une politique qui a été mise en place, certes, mais après, bon, ça ne suit pas, comme l'a dit tout à l'heure Peggy Wabino, c'est-à-dire qu'on prend une décision aujourd'hui, mais au bout d'une semaine ou d'un mois, peut-être, c'est bon, ça s'arrête là. Ça ne suit pas, en fait. Le contrôle technique a été organisé à un moment donné pour les taxis, mais pour les bateaux, tout ça, je crois qu'on n'a pas tenu compte, très souvent on ne tient pas compte de la vétusté, déjà que le propriétaire même ne sait pas est-ce que son appareil est toujours, peut toujours prendre autant de personnes, ou bien encore, est-ce que son appareil peut être utilisé. Le contrôle, la politique, l'idée ou cette conception, oui, elle y est, l'autorité prend des mesures dans ce sens-là, mais après, il n'y a pas de suivi. Beaucoup
mais
trop de mesures.
J'aimerais bien compléter aussi, Joël. La politique y est, mais les responsabilités sont partagées. Et de la part de la population, et de la part du gouvernement. Le gouvernement édicte ses lois par rapport à ça, prend des dispositions. envoient des enquêteurs sur les terrains, mais seulement quand ils arrivent, ces personnes sont soudoyées.
Oui.
Parce que pas très bien rémunérées.
Oui, au-delà.
Alors, carrément, voilà. C'est ça aussi qui pose problème. Alors, carrément, ils ne feront pas correctement leur travail. Et la population, elle aussi,
elle en pâtit. Déjà, quand on te dit que pour un bateau, il y a 200 personnes et que tu es 204e ou 202e personne, tu acceptes quand même parce que tu te dis on peut peut-être réduire le coût du moyen de transport et bon, tu t'y lances. Mais comme l'a dit Peggy, les responsabilités sont vraiment partagées. Les gens ne sont pas bien rémunérés, c'est facile de le sourdoyer. Quand ils arrivent sur place, on vous donne quelque chose, on vous fait taire et vous ne savez même pas faire le contrôle. Mais la politique en soi, on a le souci que cela se fasse, mais le suivi sur le terrain, malheureusement,
ça pose problème.
Mmh. On a un autre auditeur en ligne, Aruna. Aruna, bonsoir, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Moi, je disais tout à l'heure que ces naufrages-là, normalement, c'est dû à la destitution des bateaux. Parce que, généralement, les bateaux qui sont là et qui prennent les gens et les marchandises sont tous obsolètes. Ils viennent d'ailleurs soit de l'Europe, soit de l'Amérique. Donc, dans la mesure où ces bateaux sont obsolètes, donc les gens qui sont chargés pour faire la maintenance, eux, ils ne font pas bien leur travail. Hein. Les deux, c'est que le personnel qui s'occupe de la gérance même, de l'accueil, les dockers en quelque sorte, eux, ils font une utilisation des bateaux. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une politique adéquate pour réglementer le secteur. Bon, le gouvernement vient, ça c'est bien le médecin après la mort, après qu'il y ait l'incident, donc on essaye de prendre des lois pour remédier à ça. Or, ces lois sont prises soit à 4 mois seulement et depuis. Les lois tombent dans la directive. Mais rappelez-vous, en 2010, le cas de
Djoula. Oui, près de 2000 morts au Sénégal, oui.
Exactement. Donc, normalement, ça devrait inciter tous les chefs d'État et gouvernement à prendre des mesures pour remédier à ça. Bon, s'il se trouve de 2002 aujourd'hui, ça fait à peu près 16 ans, sinon plus. Et que toujours, il y a ces naufrages qui continuent. Donc moi, je dis que, bon, il n'y a pas une véritable politique mise en place pour encadrer le secteur en question.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aruna. Je voudrais lire le commentaire une partie du commentaire de Enoch sur notre Facebook. Il dit, il parle de la RDC. L'État congolais a aussi sa part de responsabilité dans ces sinistres, d'autant plus qu'il devrait acheter des navires viables, adaptés à la navigation locale. Ces bateaux commodes pourraient concurrencer les petits cercueils navigants, dit-il, qui perdraient alors la clientèle parce que les gens choisiront de voyager dans des conditions de qualité. Raisonnement intéressant. Peggy, Joël, est-ce que vous pensez que vraiment ça se passerait de cette manière-là? Si vraiment on y allait au forcing, si vraiment il y avait des sanctions, si vraiment on imposait toute cette sécurité, est-ce que ça pourrait même promouvoir une certaine forme de business vraiment lucratif au niveau du transport, parce qu'il y aurait à ce moment-là la concurrence?
Oui, parfaitement. C'est
de la qualité.
On pourra peut-être penser qu'il a été dur en parlant de cercueil, mais je crois que c'est le terme, excusez-moi, qui faut, parce que bon, s'il faut que les gens meurent au quotidien pour des petites choses auxquelles l'État peut y remédier, parce que chez nous, malheureusement, les navires, l'État n'en a pas, ce sont des privés, des particuliers qui veulent bien, parce que non seulement ils doivent renflouer leurs poches, mais quand même aller au secours de la population, leur permettre de circuler à travers cette voie-là, qui est soit le fleuve ou la mer ou le lac encore, mais le plus important, c'est qu'il va falloir falloir, comme il a dit, un forcing. Il va falloir bouger les choses. Il va falloir bouger aussi ce gouvernement qui a une réaction, on va le dire quand même, lente et qui tarde à réagir. Mais entre-temps, les gens meurent. C'est important. C'est un aspect qu'on doit vraiment tenir en compte et pouvoir changer les choses et bousculer les choses. C'est très, très, très important. Chez nous, les décisions, les idées sont là, mais malheureusement, les réactions, elles sont lentes.
On a notre auditeur en ligne. Youssouf. Bonsoir, Youssouf. À vous la parole.
Youssouf. Oui, bonsoir, madame.
Youssouf Barry en Guinée. On vous écoute.
Voilà, le bateau est un moyen de déplacement aussi. C'est un moyen de déplacement qui mérite vraiment une attention particulière de la part des différents États. C'est quand même sur de l'eau. Donc, vous voyez, ça, c'est dangereux. Donc, pour maintenant, en ce qui concerne les différentes causes du danger, d'ailleurs évoqué dans mon commentaire, je pense qu'il faut que l'État puisse vraiment, les différents États s'intéressent réellement à ce secteur aussi pour pouvoir réglementer les choses. En ce qui concerne les équipements, en ce qui concerne franchement la surcharge aussi, puisque moi, si je vois souvent des images qui montrent vraiment plusieurs personnes à bord d'un bateau comme ça, moi, cela m'effraie. Je me dis automatiquement que cela aussi peut provoquer des naufrages. Mmh. Voilà, il faudrait que les États puissent vraiment veiller sur ça en exigeant d'ailleurs au niveau de ces différents gestionnaires de ces enchères là de vraiment les équiper. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai parlé de gouvernail qui pourrait vraiment leur indiquer le bon lieu ou la bonne direction pour éviter que ces cas d'accident n'arrivent souvent.
Alors, il y a un autre problème auquel je pense maintenant, effectivement, aussi. C'est une réflexion de certains. C'est que ce bateau, ce ferry, là, en Tanzanie, sur le lac Victoria, il a donc chaviré à une dizaine de mètres du lieu de débarquement. Et donc, c'est dramatique de savoir que toutes ces personnes se sont noyées, mais pour la plupart parce qu'elles ne savaient pas nager. Alors ça aussi, il y a la question aussi, c'est une autre question, c'est pas une question de sécurité propre, mais importante, et aussi, bon, on imagine qu'il n'y avait absolument pas du tout de bouée de sauvetage, alors que logiquement, dans ce type de ferry, dans un ferry boat, on est censé avoir des bouées de sauvetage. Je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Joël, la question du privé et du public, Peggy ou Joël, je ne sais pas, à ce niveau-là, quand on a vraiment, dans un pays où on a tous ces fleuves et ces grands lacs, tous ces espaces fluviaux, il devrait y avoir tout de même des services publics, non, pour couvrir ces transports, non?
Il y en avait peut-être autrefois, mais avec la crise qu'a connue le pays, tout est par terre maintenant. Le gouvernement devrait peut-être essayer de se réorganiser pour essayer d'offrir un service de qualité à la population. De même que le ministère du Transport s'emploie à sécuriser le secteur routier, de même qu'il devrait le faire au niveau du secteur fluvial. Mais on a comme l'impression que le regard est beaucoup plus tourné sur le secteur routier que sur le secteur fluvial.
Mmh. Oui. C'est le sentiment que vous avez.
Oui.
C'est plus difficile.
Il y a même une régie de voies fluviales qui existe, mais bon.
Mais qui n'est presque plus opérationnelle.
Pratiquement, on va le dire, hein, et qui disparaît. Et bon, régie de voies fluviales, on sait que ça existe, mais c'est quoi son vrai rôle sur le terrain? Et ça complique tout, en fait. Ça complique tout. Et bon, vous parlez de bouée de sauvetage. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la culture occidentale où tout le monde sait nager, forcément. Et l'État doit aussi tenir compte de tout cela. Un bateau qui doit...
Mais on n'est pas obligé de savoir nager. En revanche, on a droit à une bouée de sauvetage.
Oui, justement, parce que, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des particuliers.
Un bouée de sauvetage, oui.
Ils ont besoin d'argent, à la limite, la sécurité de ceux qui prennent ou empruntent ce bateau. resto-là, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est pas la priorité. J'ai mon argent, ben bon, allez-y, ben moi, je vous laisse et je vous regarde. Mais mettre les gens, parce que il peut y avoir un incident, gilet de sauvetage, tout ça, dans le bateau, je crois pas qu'il y en a. Sinon, il y aurait pas autant de morts. Tout le monde, il y a certains tronçons dans mon pays où il ne faut qu'emprunter un bateau. Mais malheureusement, les conditions de sécurité sont amoindries et tous les jours, carrément, on va dire que ça disparaît.
Mais Nathalie, déjà au départ, il y a un problème. Lorsqu'on on embarque dans un bateau où il n'y a même pas de manifeste, alors comment on peut retrouver des bouées de sauvetage?
Vraiment.
Parce que le plus souvent, quand un naufrage se produit, à la fin, on ne sait pas retrouver les manifestes pour essayer de savoir combien le nombre de personnes qui étaient à bord.
Il n'y a pas d'enregistrement du tout.
Il n'y en a pas du tout.
Voilà. Et c'est pour ça qu'on a toujours le problème de savoir même combien de personnes étaient à l'intérieur.
Alors, si le manifeste, déjà au départ, il n'y en a pas, alors je vois très mal comment est-ce qu'on pourrait retrouver
des personnes. Et c'est terrible pour les familles, parce qu'elles ne savent même pas que leurs proches est peut-être dans un de ces bateaux.
On compte des morts, morts, mais des morts parce qu'on les a repêchés. Au départ, on ne sait pas qui sont morts.
C'est des disparus.
Parce qu'il n'y a pas de manifeste. Voilà. Après, il y a des disparus et puis on en parle.
Mais moi, j'estime que là, ce sont les passagers eux-mêmes qui devaient être exigeants. Dès le départ déjà, lorsqu'on on va pour payer son ticket, on exige des conditions de sécurité.
Pour faire comme disait notre auditeur que j'ai cité tout à l'heure, qui disait que si vraiment on s'était fait de manière très sérieuse et qu'on avait des beaux bateaux qui se présentaient là avec toutes les qualités, ça ferait concurrence à ces vieilles baraques. Et justement, là, les gens, la clientèle, donc, iraient voir les autres, en fait. Et ça
dans ce domaine-là, chez nous, dans mon pays, c'est que il y a beaucoup plus des privés qui veulent en fait aider la population et ils ne veulent pas qu'on leur en demande aussi trop quand même parce
que c'est
moi je voudrais aider vous l'État vous n'avez rien. Et à ce moment-là, l'État il prend des mesures, mais avec des pincettes, parce que bon, il s'est dit à la fin, ben c'est pas un appareil ou un engin qui appartient à l'État. Et bon, voilà, je vais.
Mais avant de prendre un auditeur très rapidement pour terminer, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quand même dans tout ça des compagnies qui sont sérieuses, des privés qui mettent vraiment l'argent et qui présentent un service vraiment digne de ce nom aux gens qui veulent prendre le bateau?
Je dirais presque pas.
Oh.
Ce sont des petites embarcations, des petites baleinières. Si vous allez vers le port, comment on appelle ça, Joël? Vers la gare centrale.
Oui. Il y a un port de ce côté-là.
Voilà.
Mais peut-être pour ne pas peut-être parler de cette entreprise-là ici, mais il y a un port. Dans les provinces, c'est là où c'est chaotique, en fait. C'est vraiment chaotique. Mais déjà, même si vous regardez ici, si vous prenez un bateau normal pour traverser du côté du Congo-Brazzaville, si ce n'est pas en canot rapide, c'est chaotique, c'est catastrophique. Il y a des gens qui montent sur les autres. Mais on accepte seulement parce qu'il va falloir traverser et le coût est moindre.
Mais il y a vraiment un manque à gagner, visiblement, de compagnies de transport qui pourraient effectivement présenter quelque chose de présentable aux gens qui veulent voyager.
Je pense que si aujourd'hui on amène quelque chose de présentable, ça dépend de la culture aussi que l'on a, mais on a quand même envie aussi d'émerger. Quand on présente, si on présente aujourd'hui un engin qui va assurer avec toutes les conditions, ben on va emboîter le pas parce qu'on l'a fait dans le secteur de transport routier. Je crois que ça pourrait être aussi possible dans ce secteur-là.
On prend Enoch, il est parti, Alphonse est parti, c'est Alphonse en fait. Hassan, vous n'avez que 15 secondes, je suis désolée, très rapidement, on vous écoute.
Moi, je dis d'abord mes condoléances aux familles endeuillées en Tanzanie, et j'aimerais dire que les institutions doivent être fortes en Afrique pour endiguer tous ces problèmes qui sont liés à la corruption et à la malgouvernance.
Merci beaucoup Hassan, un grand merci à Joël et Peggy, un grand merci également à Firmin, Max Koyema, à la production et bien entendu à tous nos très chers auditeurs, nos très chères auditrices. À très bientôt, au revoir.